Dans ce journal, on suit bien sûr les évolutions météorologiques. On vous parle aussi de concurrence dans le transport maritime, de câbles sous-marins et d'histoire du surf. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On fait un point sur la dépression Nat.
Oui, c'est le nom qui a été donné à cette dépression forte qui était surveillée depuis plusieurs jours par les météorologues. Alors selon le dernier bulletin cyclonique de Météo France publié ce matin, elle était à 2h située à 800 km à l'ouest de Tahiti et à 600 km de Raiatea et devait passer vers Mopelia ce mardi, avant donc de s'approcher des îles du vent et des îles sous le vent où de fortes pluies sont attendues dans la soirée demain et jeudi. Elle devrait aussi entraîner des vents pouvant aller jusqu'à 95 km/h avec des rafales à 130. A noter aussi cette vigilance orange forte houle décrétée sur Mopelia et donc les îles sous le vent.
Et justement, on s'intéresse aux prévisions.
Oui, chaque dépression ou épisode pluvieux, on retrouve les mêmes discussions sur la fiabilité ou non des informations de Météo France. Et dans le cas de cette dépression Nat, le risque de cyclone s'est au fil des jours estompé. Et les grosses pluies prévues dimanche, par exemple, n'ont arrosé Tahiti que hier. Alors aucun doute pour certains commentateurs, Météo France manque de fiabilité. Et pourtant, l'antenne polynésienne qui surveille le temps sur tout le territoire et toute l'année l'assure. Les prévisions polynésiennes, ce n'est pas de la météo au rabais. La direction assume toutefois une part d'incertitude et d'imprécision, comme l'explique le directeur adjoint Frédéric Troc.
C'est pas si grave que ça d'avoir un peu d'incertitude et d'imprécision. C'est pas quelque chose de vraiment fondamental. Le travail, il est complexe. C'est énormément de paramètres, beaucoup d'expertise à apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos prévisionnistes, c'est des gens formés. Ils ont fait l'École nationale de la météo. Ils ont été recrutés sur concours. On fait partie des services météorologiques de référence à Météo France. On a un centre de recherche. Tout ça, c'est pas de la météo rabais. Hein. Ce qu'on a en Polynésie, c'est du niveau de bons services météorologiques.
Alors forcément, les épisodes pluvieux sont souvent l'occasion de retrouver des comparaisons entre différents outils. Ceux qui ne croient pas en Météo France mettent en avant les prévisions glanées en ligne, notamment sur les sites WindGuru ou Windy, des sites qui ont pour eux une interface interactive qui utilise les mêmes modèles que les prévisionnistes, mais qui sont entièrement automatisés.
C'est des prévisions bien souvent qui ne sont pas expertisées. En fait, WindGuru, il prend un modèle, il prend une possibilité et il dit c'est la bonne et je l'affiche. Ben, si tu fais ce travail-là, de temps en temps t'as raison, de temps en temps t'as tort. Et plus que nous qui faisons justement ce travail d'analyse et d'expertise, notamment sur l'approche probabiliste, parce qu'on est obligé de tenir en compte toutes les possibilités. Tu vois, moi je peux pas prendre un modèle en disant comme ça sans l'avoir étudié, mais je prends celui-là et je dis que c'est ça.
Voilà, donc selon Frédéric Troc, les sites proposant des interfaces en ligne se tromperaient plus souvent que l'agence météo. À Météo France, les experts expliquent faire un long travail de comparaison et d'analyse des données au lieu de les livrer brutes. C'est ce qu'il s'est passé dans le cas de la dépression qui se dirige vers le Fénois. Les prévisionnistes expliquent ainsi avoir repéré des zones potentiellement dangereuses, favorables à l'apparition de phénomènes tourbillonnaires comme les cyclones, et ce grâce à l'analyse de petits signaux avant-coureurs.
L'idée, c'est de pouvoir, dès le début, même avant qu'il se forme, dire « attention, là, il faut surveiller ». Et le fait d'avoir une attention particulière sur cette zone va nous permettre de pouvoir se dire « ok, ça a l'air de se former, on va commencer à analyser ça de plus près, et si ça se confirme, on va commencer à lancer justement des mises en garde, etc. » Parce que derrière, il y a un risque que ça se produise vraiment. L'idée, c'est vraiment d'anticiper au mieux, en étant capable d'analyser des tout petits signaux qui se voient à peine sur une image.
Voilà, des propos recueillis par Vaïtia Repereur. On vous tiendra bien évidemment au courant des évolutions météo au cours de la journée.
Et cette météo met tout de même le transport aérien en alerte.
Oui, avec les intempéries, les compagnies aériennes domestiques et internationales sont sur le qui-vive. Entre dimanche et hier, 3 vols entre Papeete et les îles sous le vent ont dû rentrer à Tahiti. On écoute Tea Reina Tea Motuaitao, elle est directrice des opérations de l'aéroport de Tahiti.
Au fil de l'eau, il peut y avoir effectivement des déroutements qui sont décidés par les compagnies aériennes. Donc, étant donné que les îles sous le vent sont impactées par les phénomènes dépressionnaires. Donc on peut avoir au fil de l'eau soit des déroutements ou des retours de vol sur Papeete. Il y a eu effectivement des déroutements cette matinée. Pour le programme de vol domestique, dans la journée, il y aura certainement quelques perturbations.
Voilà, les modifications des vols se font au fil de l'eau, c'est ce qu'explique l'aéroport. Du côté des compagnies, chez Air Tahiti Nui par exemple, on reste serein pour les prochaines 24 heures. La compagnie Otiare, qui fait un point tous les 6 heures, surveille plusieurs facteurs pour décider de la modification ou pas de son programme de vol. La direction du vent, la visibilité et l'inondation des pistes. À l'aéroport, on assure être à jour du plan de sécurité anti-inondation. Teiraina Teamotuaitao précise qu'un plan existe pour envoyer les ATR des compagnies domestiques stationnées sur d'autres aéroports, si Tahiti Faa était dans la capacité de les accueillir.
7h05, l'APC rend sa première autorisation de concentration sous condition.
Oui, on parle là du dossier de rachat par CMA-CGM de Bolloré Logistique. Pour rappel, le groupe Bolloré a signé en 2023 la vente de sa filiale présente dans le monde entier à l'armateur numéro 3 mondial du transport maritime. Et ce, pour la coquette somme de 4,6 milliards d'euros, soit près de 555 milliards de francs. 18 autorités de la concurrence autour du monde doivent donc donner leur avis sur cette vente, dont l'autorité polynésienne qui a rendu sa copie. Et c'est donc une autorisation de concentration sous condition d'engagement structurel, une mesure plus contraignante par exemple que les engagements comportementaux demandés par l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Les explications avec le rapporteur du dossier, Maxime Epting.
En fait, on a un acteur monopolistique à l'amont sur le transport de marchandises, Europe-Polynésie, qui veut acheter le numéro 1 du marché aval organisation du transport de marchandises. Fort de ce constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des réels risques de verrouillage du marché aval du fait de cette intégration verticale qui serait née de l'acquisition de Bolloré Logistique par CMA.
Et au cours de l'instruction du dossier, pas moins de 25 réunions avec un pool de 15 avocats, CMA-CGM a donc proposé de prendre des engagements structurels pour éviter un éventuel refus, à savoir la cession dans un délai relativement court de l'activité maritime de Bolloré Logistique.
Ils nous ont proposé comme engagement pour que l'APC autorise cette acquisition de céder l'intégralité de l'activité maritime de Bolloré Logistique, c'est-à-dire que toute l'activité maritime de Bolloré Logistique sur l'organisation du transport de marchandises ne pourra pas être gardé par CMA.
Voilà, dans le délai avant la revente, CMA-CGM devra aussi respecter des engagements comportementaux, notamment de maintenir cette partie de Bolloré Logistique comme une entité distincte et cessible, le tout sur fond de clause de non-concurrence pour préserver la situation concurrentielle sur le marché des transitaires. La présidente de l'APC, Joanne Père, qui se félicite de la coopération avec l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie et avec la Commission européenne.
Dans le travail de l'APC en Polynésie, c'est la première fois, donc on conditionne une autorisation à des engagements structurels. Ce qui rend ce dossier également très particulier, c'est le fait que ça s'inscrive dans un deal mondial. Ce dossier aussi est un exemple de coopération efficace avec d'autres autorités de concurrence, en particulier l'autorité de concurrence de la Nouvelle-Calédonie et la Commission européenne, puisque la Commission européenne a à se prononcer sur le reste des outre-mer français. Et c'est cette coopération en particulier qui a permis d'aboutir à une solution efficace et proportionnée.
Voilà des propos recueillis par Caroline Perdry.
Une enquête maintenant, mais une enquête en eau profonde.
Oui, celle qui est menée depuis samedi par Onati, gestionnaire des câbles sous-marins pour l'OPT. Samedi soir, la filiale Télécom avait annoncé une coupure de liaison survenue sur Honotua, ce câble posé en 2010 qui relie le Fénois à Hawaï et donc aux États-Unis et qui voit donc passer l'essentiel du trafic de données de la Polynésie. Un trafic qui a dû être routé intégralement sur le câble Manatua lancé en 2020 et qui relie le Fénois au Samoa. La déviation fonctionne mais reste problématique puisque les capacités de bandes passantes sur cette route sont plus faibles. 50 gigabits par seconde maximum, c'est légèrement moins que ce que consomment les Polynésiens dans les heures de pointe du début de soirée. Résultat, des ralentissements observables un peu partout dans le pays ces derniers jours. Et pour y remédier, donc, Onati a lancé des investigations qui sont toujours en cours, mais qui ont déjà permis de localiser la panne. Rien n'est certain pour le moment, mais les services techniques de la société pensent que la coupure de liaison a eu lieu à la jonction entre les parties marines et terrestres du câble côté Hawaï, à savoir quelque part sur la plage de Spencer Beach à Kauai Head dans le nord de Big Island. Pour valider cette hypothèse, la filiale de l'OPT a donc demandé à ses partenaires hawaïens d'aller faire une inspection visuelle et photographique du tronçon. Et ce sont bien des équipes d'Onati formées pour ce genre d'intervention qui devraient être envoyées sur place dans le courant de la semaine. L'OPT espère donc régler ce problème inédit dans les jours à venir. En attendant, elle discute avec les opérateurs internationaux pour débloquer un peu plus de capacité entre Samoa et l'Australie et ainsi en finir avec les bouchons sur l'internet local.
Et pour terminer, on vous parle d'histoire du surf.
Avec cette interview de Jean-Christophe Shigetomi, qui était l'invité de notre rédaction en fin de semaine dernière. Jean-Christophe Shigetomi est surtout connu pour ses recherches sur les Polynésiens dans les guerres, mais qui a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire du surf, donc une histoire dont Hawaï assume souvent la paternité. Mais pour l'historien, c'est bien en Polynésie orientale que le Horue est né, et c'est d'ailleurs à Tahiti que les Européens l'ont observé pour la première fois. Et c'est une discipline qui a eu des significations différentes selon les îles et les périodes. écouter.
Dans les premiers écrits, le surf est relativement sacralisé. Hein. Il y a un lien, comment dire, avec le divin. Il y a un lien avec le mana et il est souvent réservé aux élites. Et on a beaucoup de témoignages où on dit que les femmes excellent, je dirais, dans ce sport. Donc, il est sacralisé, il est réservé à des élites, mais à un moment donné aussi, il est assez démocratisé, c'est-à-dire qu'il est pratiqué par l'ensemble des populations et en l'occurrence, souvent par les enfants, par les jeunes enfants, etc. et tout.
Et selon l'historien, cette pratique n'a jamais cessé malgré la colonisation. Elle a même connu une renaissance locale à partir des années 60 autour de nouveaux pionniers, Enere Luca, les frères Paofei, les Le Boucher, avant les champions de la vague tahitienne qui domineront le surf français pendant de longues années. Avec les Jeux Olympiques de Tiopo, l'épicentre mondial du surf reviendra là où tout a peut-être commencé. Voilà ce que nous dit Jean-Christophe Shigetomi, dont l'interview est bien sûr à retrouver en intégralité sur notre site radio1.pf. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30 pour votre revue de presse locale. Et avant de nous quitter, ne manquez pas ce rendez-vous ce mardi à 11h30. L'invité de la rédaction de Radio 1 est Nuihō Lorraine, l'élu non inscrit, cofondateur de Aereia Polynesia, nous parlera de finances publiques, des effets d'annonce du gouvernement et de la difficile, voire impossible, unité du camp autonomiste. À suivre bien sûr en direct sur Radio 1, sur Tiare FM Tahiti et sur notre page Facebook. On le rappelle, ce sera donc à 11h30.